Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605.
L'équipe de Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Polaire 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com.
Ça me fait plaisir ce matin d'accueillir un des Québécois, un des rares Québécois qui a atteint le baseball majeur, Claude Raymond. Claude Raymond qui a lancé pour les Expos de Montréal et quelques équipes dans le baseball majeur. Bonjour Claude.
Bonjour.
Claude, ça va, la santé, comment ça va bien à l'approche des fêtes? À l'approche des fêtes, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Puis vous, là, de voir la pêche à Wallaniche dans ce coin-là?
Non, hein? Pas vraiment. Il fait un peu trop froid, par exemple.
Ouais, OK. Elle dort dans
ouais,
le fond.
Effectivement. Claude, le goût du baseball a commencé quand pour toi?
Oh, j'avais 4-5 ans. Là, moi, je regardais jouer les gens sur ma rue. Ma rue okay. était faite en... Il n'y avait pas de pavé, là, c'était en terre battue, puis ça jouait à balle à tous les jours. Puis à un moment donné, je me suis assis sur le bord du trottoir, puis finalement, ils m'ont invité à aller jouer à vache, courir après balle à l'autre bout.
Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, cette expression-là, à vache.
Ouais, mais ça existait.
Okay.
Mais c'est le même que j'ai commencé. J'avais 4-5 ans, là, j'ai commencé, puis... Un coup que j'ai commencé, ben ça n'arrêtait plus. Là. On jouait, nous autres, tant qu'il y avait de la lumière le matin et le soir, on jouait, on se lançait à la balle, puis on frappait, puis on courait après la balle. Puis c'est de même que ça a commencé.
Au Québec, dans ce temps-là, y avait-tu des ligues organisées? Y avait-tu des midgets? Y avait-tu de la ligue junior? Y avait-tu... Comment ça marchait?
Ah, ben il y avait les Royaux de Montréal, puis il y avait la Ligue provinciale, ouais. puis il y avait la Ligue Laurentienne qui existait.
Okay.
Puis moi, dans mon coin ici, il y avait les Ligues juvéniles, il y avait les Ligues juniors.
Okay.
Il y avait Kingsman qui avait une ligue ici à Saint-Jean.
Okay.
Puis voilà, on se débrouillait. Moi, quand j'étais jeune, là, mettons, à 14 ans, 13-14 ans, je jouais dans trois ligues différentes.
Fait que
je jouais juvénile, je jouais junior, puis je jouais dans la ligue border. Ça, c'est, moi, je jouais pour Saint-Sébastien.
Ouais.
Puis il y avait deux équipes des États-Unis, Swanton, Vermont, puis Highgate, Vermont, qui jouaient dans notre ligue. Puis c'était bien organisé, puis c'était pas aussi strict qu'aujourd'hui, là, parce qu'il n'y avait pas de règlement sur...
Il n'y a pas de fédération.
Mettons, l'âge, pour l'âge de jouer, tu sais, moi, à 12 ans, je jouais junior. J'étais voltigeur, puis à 13 ans, je lançais junior. Fait que, il n'y avait pas de problème, là.
Dans l'ensemble, est-ce que vous avez été performant dans ces ligues-là? Est-ce que vous étiez un joueur étoile? Est-ce que 12 ans, 12, 13 ans, c'est sûr que vous deviez quand même avoir un potentiel énorme?
Ben, j'étais pas un joueur étoile, mais je tenais mon bout, puis écoute, j'ai jamais gagné un seul trophée, moi, comme joueur de baseball à Saint-Jean.
OK, hein, monsieur.
Ma première récompense que j'ai eue, je l'ai eue quand j'étais à Milwaukee en 62 comme recrue de l'année.
Okay.
Fait que j'ai pas. À Saint-Jean, j'ai gagné des trophées au bowling, mais jamais au hockey, puis jamais au baseball.
OK. Si on parlait maintenant de par la suite, à quel moment vous avez décidé de mettre votre carrière, votre focus comme lanceur?
Ben, c'est pas moi qui ai décidé, c'est c'est André Petit qui a été un très, très bon joueur de baseball. D'ailleurs, il s'était fait offrir durant la même année, un contrat de hockey avec les Rangers de New York, puis un contrat de baseball avec les Giants de New York. Mais c'est lui qui m'avait, parce qu'il avait vu que j'avais un bon bras, puis il avait besoin de lanceurs pour son équipe junior. Fait que c'est lui qui m'a demandé de lancer. Puis moi, j'avais bel et bien dit, non, je ne veux pas lancer parce que je veux jouer à tous les jours. Il dit, oui, oui, tu vas jouer quand même si tu ne lances pas. Okay. On va te faire jouer en quelque part. Fait que c'est le même que j'ai commencé, mais c'est pas moi qui ai décidé de devenir lanceur. C'est André Petit qui a décidé de faire un lanceur de moi. Okay. Puis là, j'ai commencé. Puis j'ai toujours joué à plusieurs positions. Même quand je jouais junior, tu sais, s'il manquait un premier but, je jouais au premier but. S'il manquait un voltigeur, je jouais voltigeur. La même chose à l'arrêt court ou au troisième but, même receveur. J'ai été gérant de mon équipe junior, juvénile. Okay. Puis quand il manquait un joueur, s'il manquait un receveur, j'allais comme receveur. J'avais pas peur de la balle, moi, là. Puis, c'est de même que ça a commencé.
Le hockey, ça vous tentait-tu dans ce temps-là aussi? Ou...
Ben oui. On jouait au hockey l'hiver. Dès qu'il y avait de la glace, dès qu'il y avait à quelque part dans le champ, là, s'il y avait une flaque de glace, là, on se ramassait là toute la gang, puis on mettait nos patins, puis on jouait au hockey. Puis un peu plus tard, même l'hiver, là, puis on a entendu souvent ça, ces expressions-là. On mettait nos patins le matin pour les enlever le soir. On venait patiner, on allait patiner, puis on s'en venait avec nos patins dans les pieds, dans les rues. Nos mères nous faisaient manger avec on mettait des journaux en dessous de notre chaise, puis on mangeait, puis là, on repartait tout de suite après. Fait qu'on était en patin toute la journée. Fait que, on faisait tous les sports. Tous les jeunes dans ce temps-là qui faisaient du sport, l'hiver, c'était le hockey, puis l'été, c'était le baseball.
OK. Les États-Unis, ça vous a... À quel moment qu'il y a une équipe du baseball majeur qui vous a approché pour faire de vous un prospect intéressant?
Ben, quand j'ai signé mon premier contrat, j'avais 17 ans. Fait que,
OK, donc on voit déjà votre potentiel.
Ouais, j'ai joué 2 ans avec Villeray dans la Ligue junior de Montréal.
OK.
Puis là, il y avait toujours des dépisteurs à nos matchs. Puis moi, j'ai lancé pour Villeray 2 ans. Puis j'ai lancé un match sans point de coup sûr chaque année.
Okay.
Puis on avait une assez bonne équipe. Fait que j'ai eu 2 bonnes années avec Villeray. Puis c'est là que j'ai signé mon contrat professionnel.
OK. Si on parlait un peu, donc là, par la suite, c'est le recruteur qui vous a fait signer, c'est qui? C'était important à ce temps-là. C'était toujours important, un dépisteur. C'est qui vous a fait signer comme
Le premier, ça a été M. Roméo Pilon. Il était dépisteur des Dodgers, lui.
De Brooklyn.
Dans ce temps-là, les Dodgers étaient à Brooklyn.
Ouais.
Mais moi, j'avais signé pour eux parce qu'ils m'avaient fait... Ils m'avaient amené au stade de Lormier, lancé à pratique au bâton pendant une semaine de temps.
Okay.
Puis il y avait Jacques Bélanger aussi qui jouait pour Verdun, un joueur de troisième but. Lui, il est venu se pratiquer avec eux autres pendant une semaine de temps, puis ils nous ont fait signer tous les deux. Mais moi, j'avais pas fini mes études. Alors, quand tu n'as pas fini tes études, dans ce temps-là, ça prenait la permission du commissaire du baseball pour signer un contrat.
Okay.
Surtout quand tu n'étais pas majeur. Là, parce que j'avais j'avais juste 17 ans. Là, fait que ça prenait la signature de Ford Frick.
Okay.
Alors, ils m'ont déclaré joueur autonome. Les Dodgers ont été mis à l'amende. Puis, moi, j'ai gardé mon petit bonus de 250$.
Puis, au mois de février. On parle de quelle année à peu près?
Ça, c'est en 54. Ça.
54, OK. Donc.
J'avais signé à l'automne 54 que j'avais signé.
OK.
Puis, là, ils m'ont déclaré joueur autonome. Puis. J'avais pas le droit de signer avant le 1er février. Mais le 1er février, j'ai signé pour les Braves de Milwaukee.
Ouais.
C'était Roland Gladue qui était dépisteur pour eux. Il est venu chez nous.
Okay.
Puis là, mon père était avec moi parce que ça prenait la présence de ton père et la ceinture de ton père pour pouvoir signer. Alors, c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat. J'avais 17 ans, puis... Je m'envolais pas, mais on prenait le train pour aller au camp d'entraînement Waycross en Géorgie. Puis finalement, je me suis retrouvé avec West Palm Beach dans la Ligue de la Floride. Tu pouvais pas avoir une meilleure ligue pour commencer ta carrière éloignée de chez vous. Fait que c'est beau la Floride, c'est beau West Palm Beach.
Comment
j'ai jamais allé là, moi, là. Là.
Comment que c'était la vie dans le baseball mineur? Parce qu'aujourd'hui, on en parle en masse comment les jeunes sont pas riches. L'an prochain, les équipes du baseball majeur devraient payer le loyer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, il y avait ça. Oui. Mais le temps, là... C'était-tu le même contexte, un peu 3-4 par appartement? Vous aviez de la misère à manger? C'est ça aujourd'hui, le baseball?
Non, moi je gagnais 165$ par mois.
Okay.
Puis là, là-dessus, il fallait que je paye du Social Security, puis il fallait que je paye mes impôts. Puis on avait une chambre Yvan Dubois qui était maire du village olympique. Lui, il vient de Saint-Jean aussi, puis c'était mon receveur quand j'étais plus jeune. Puis lui et moi, on formait une batterie avec West Palm Beach, puis on chambrait ensemble. Ça nous coûtait 10$ par semaine pour notre chambre.
Okay.
Mais pour manger, bien, on mangeait ce qu'on avait. On pouvait aller chez... Il y avait une cafétéria qui s'appelait Morrison dans ce temps-là, partout en Floride, puis là, tu pouvais choisir ce que tu voulais manger, tu sais, fait que ça te coûtait peut-être 1,5$, 2$ maximum.
Okay.
Fait que tu t'en tirais un petit peu, là, le déjeuner, ça coûtait entre 50 puis 75 cents, là.
Ouais.
Déjeuner, deux œufs, du bacon, puis des rôtis, puis des grits, puis
okay.
En tout cas, on s'en sortait comme ça, puis quand on allait à l'extérieur, quand on jouait sur la route, on avait 50 cents de per diem, fait que ça pouvait payer pour notre déjeuner. On était pas riches.
Là.
On était loin d'être riches, mais nous, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on était là pour jouer au baseball.
OK. Donc,
On était concentrés sur le baseball.
Ben oui.
Puis il n'y a personne qui nous disait qu'on était pauvres, puis personne qui nous disait qu'il nous prenait en pitié parce que tout le monde était content pour nous autres, puis tout le monde nous enviait parce que tout le monde aurait aimé ça jouer au baseball professionnel.
Oui. Par la suite, ben, vous avez fait vos débuts dans le baseball majeur contre les Athletics de Kansas City, qui est devenu les Athletics d'Oakland par la suite. Donc,
oui.
Le 15 avril 59, donc dans l'uniforme des White Sox de Chicago.
Oui. Moi, j'avais été repêché par les White Sox de Chicago. Il y avait le repêchage spécial, là, qu'ils appellent. Ouais. Rule 5. Là.
Cette année, là, Charles Leblanc, là, qui était
un joueur
du baseball mineur. Là.
C'est ça. Là, si tu n'étais pas sur la formation des 40 joueurs après 4 ans professionnels,
ouais.
Tu étais sujet à être repêché. Moi, les White Sox ont payé 50 000 piastres. Dans ce temps-là, c'était beaucoup pour moi. Puis si je ne resterais pas toute l'année avec les White Sox, les Braves avaient le droit de me rapatrier pour 25 000 piastres.
Okay.
Fait que c'est là, moi, j'ai... tu vois, avec les White Sox, j'ai joué 4 matchs, puis finalement, les White Sox ont essayé de m'envoyer à Indianapolis, le club ferme 3A, mais les Braves m'ont récupéré, puis là, c'est là que j'ai fait... Ensuite, j'ai joué pour les Braves en 61, 62, 63 à Milwaukee.
Vous étiez sûr? C'était 400. On le met aujourd'hui, là, M. Raymond, là, c'est 465 000 $ en dollars d'aujourd'hui qu'ils vous ont payé. 50 000 $ pour. En le mettant dans son calcul de l'inflation. C'est quand même. Vous dites que c'est beaucoup d'argent quand même.
Oui.
Partant au releveur, vous étiez dans le baseball mineur?
Pardon?
Étais-tu partant ou releveur dans le baseball mineur?
J'étais partant.
Vous étiez partant, OK.
La première année, j'étais partant, puis entre mes départs, le gérant l'utilisait comme lanceur de relève.
Parce que ça marchait pas.
Puis la deuxième année, ça a commencé comme ça. Le gérant de mon équipe à Evansville, il a dit que j'avais un bras de caoutchouc, ça veut dire que je pouvais lancer tous les jours.
Ouais.
Fait que là, ça a commencé une nouvelle vague de lanceurs de relève, parce que dans ce temps-là, Un lanceur de relève, c'était quelqu'un qui était plus âgé, c'était quelqu'un qui avait été blessé, c'était quelqu'un qui avait pas une bonne balle rapide. Tu sais, c'était pas des lanceurs de grande qualité, là.
Non,
mais moi, là, les Braves ont commencé à utiliser des jeunes comme lanceurs de relève. Puis moi, ben moi, ça me dérangeait pas parce que je pouvais lancer tous les jours. Okay. Fait que à Evansville, j'ai lancé comme releveur numéro un toute l'année. Puis j'ai commencé un match seulement avec les Braves d'Evansville. Puis parce qu'on était mal pris. Puis on avait un programme double. Alors j'ai lancé le deuxième match du programme double. Puis j'ai failli lancer un match sans point du coup sûr. Parce que c'est Dick Trzoski qui avait frappé un coup sûr au champ droit par-dessus la tête de mon voltigeur de droite pour le seul coup sûr. Fait que, non, c'est. Puis après ça, ben, à Jacksonville, c'est seulement des matchs en relève que j'ai fait. Mais ma quatrième année à Wichita, là, je commençais des matchs. Mm. Puis ça a bien été cette année-là aussi. Là, fait que, mais dans ma carrière, moi, j'aimais ça parce qu'en 65, je n'ai lancé 7 matchs pour les Astros de Houston.
Ouais.
Puis j'ai eu 2 victoires, 2 matchs complets. Là. J'ai eu 5 victoires, 2 défaites dans mes 7 matchs. Fait que j'aimais ça, mais c'est parce qu'on avait beaucoup de blessés. Puis le gérant m'a dit on va te faire lancer. Puis quand les autres gars vont revenir, ben tu vas retourner en relève parce que t'es très utile pour nous autres en relève.
C'est là qu'on voit
l'année d'après, j'ai fait l'équipe d'étoiles.
Comment que ça a changé le baseball? Comment que ça a changé aujourd'hui la relève? Là, c'était des spécialistes en gaucher, en droitier. Tu lances pas plus de. Une équipe qui n'a pas de bonne relève ne gagne pas. C'est là qu'on voit quand même que ça a changé. Parlez-moi de votre premier match.
Puis aussi, je peux ajouter que aujourd'hui, le lanceur de relève numéro 1, il lance une manche.
Ben ouais.
Quand il lance 2 manches, ils sont une couple de jours sans lancer. Tandis que nous autres, à partir de la 6e manche, quand c'était pointage égal ou un point en avant ou un point en arrière, quand le téléphone sonnait dans l'enclos d'exercice, c'était ma game à moi. Là, c'était moi qui se réchauffait. Puis des fois, tu lançais 4 manches pour avoir un match préservé.
Ouais, il n'y avait pas trop d'opérations Tommy John dans le temps. Hein?
Il n'y avait pas. Les deux premiers qui sont fait opérer, là, c'était pas pour Tommy John, c'était pour des fragments d'os au coude. C'est Jim Brewer par le Dr. Job à Los Angeles, puis Dave Justy, qui était mon compagnon à Houston, par le Dr. King, il s'est fait opérer, puis ça a pris 2 ans avant qu'il revienne. Juste une petite opération pour enlever des fragments d'os dans le coude. Aujourd'hui, il t'enlève ça, puis un mois ou deux après, tu lances. Tu sais, fait que, ça prenait 2 ans dans ce temps-là.
Dites-moi, parlez-moi de votre premier match au Stade Olympique. Ben, pas au Stade Olympique, mais au Parc Jarry, le 16 mai 69, avec les Braves contre les Expos. Vous avez eu une belle accueil. Moi, j'ai lu dans les. Moi, je crois que je n'étais même pas au monde dans ce temps-là, mais vous avez quand même eu. J'ai lu dans les livres, vous avez reçu une belle accueil cette journée-là.
Ah, ben, j'ai reçu une ovation debout. Tout le monde était debout au Parc Jarry. Puis, moi, je n'étais pas habitué à ça. Là. J'ai jamais eu d'ovation avant de venir jouer à Montréal. Ça, j'étais dans le club adverse. Puis, quand je suis arrivé au Monticule, c'était en 8e ou 9e manche, je me souviens pas exactement. Puis là, ben c'était le cœur de la formation, là. Manny Mota, Rusty Staub, avec qui j'avais déjà joué à Houston, puis je me souviens pas qui d'autre, je pense que c'est Ron Fairley. En tout cas, j'ai passé à travers de ça, puis finalement, on a gagné en 11e ou 12e manche sur un circuit de Tito Francona, un de mes bons amis. Fait que puis quand le match a été fini, il y a eu une autre ovation. Alors, c'était extraordinaire. Ça, c'était.
Il y avait 21 000 spectateurs, ce match-là.
C'est le Parc Jarry, tu pouvais mettre quoi, 26 000-27 000 personnes.
Ouais.
Fait que c'était presque plein, là. Puis c'est des ovations, là, moi, je n'avais jamais eu. Fait que c'était vraiment, vraiment réconfortant. Puis c'est là que je me suis dit, ben c'est sûr qu'un jour, je vais aboutir à Montréal.
Et c'est arrivé
le 19 août.
Oui, c'est ça, 19 août, je partais pour le dire, le 19 août, 80, même année, 69 en fait, contre les Braves d'Atlanta. Pourquoi les Braves avaient décidé de vous échanger aux Expos?
Ben, ils m'ont pas échangé, ils m'ont racheté. Ils placent sur la liste de réserve, là, les waivers, qu'ils appellent, là, parce que là, ils mettent 10 noms là-dessus.
OK.
Puis, tu sais, tu peux mettre Hank Aaron, tu peux mettre Phil Niekro, tu peux mettre n'importe qui là-dessus. Puis là, ben, quand, admettons que les Giants, ils disent, nous autres, on va avoir un Karen, boum, fait que là, ils retirent le nom d'un Karen, puis là, ça recommence une autre liste après. Puis là, ben, eux autres, parce que moi, j'ai l'impression que Montréal, ils voulaient avoir Claude Raymond, parce que moi, je connaissais bien M. McHale, parce que je l'avais eu comme directeur gérant avec les Braves de Milwaukee, puis je l'avais eu avec les Braves d'Atlanta, puis Jim Fanning, je le connaissais bien aussi, j'avais joué contre lui, puis il était dans l'organisation d'Atlanta, puis j'avais déjà travaillé l'hiver pour les Expos avant même qu'il y ait un lancer qui soit effectué, fait qu'eux autres, ils voulaient m'avoir, puis là, ils ont peut-être retiré mon nom une fois ou deux fois, mais la troisième fois, ils n'ont plus le droit de retirer ton nom, fait que c'est peut-être comme ça que c'est arrivé, moi, je ne sais pas. Je connais pas l'histoire, puis je connais pas vraiment tous les détails qui sont arrivés pour que j'arrive là.
Ouais.
Mais, tu sais, les Braves ont été en première position. Puis, dans ce temps-là, ils étaient dans la division Ouest. Puis, dans ces années-là, c'était l'Ouest contre l'Est pour le gagnant aller en série mondiale. Puis, cette année-là, c'était les Braves contre les Mets. Les Mets ont battu les Braves. Puis c'est là que les Mets sont allés en série mondiale, puis ils ont gagné en série mondiale, à fin de compte. Mais moi, je suis parti de la première position à la dernière position, loin, loin, loin en arrière.
Oui, effectivement, c'était une équipe d'expansion, effectivement. Donc, premier départ avec les Expos, ben, première présence en relève, ça c'est quelques jours après, j'imagine?
Ben, c'est le lendemain.
Okay.
On avait un programme double le vendredi contre les Padres de San Diego.
Okay.
Ils m'ont utilisé en relève. Là, fait que,
ça a bien été.
Là, j'ai eu une autre ovation. Là, c'est fou là, de baseball. Là.
Non, effectivement. Et vous avez terminé.
Ils ont des bons partisans à Montréal.
Oh, ouais. Et vous avez terminé votre carrière en 71 avec les Expos. Fiche totale de 46 victoires, 83 victoires protégées. Faut dire, dans le temps, c'était pas une manche, c'était 2-3 manches qu'un releveur numéro 1 faisait. Hein?
Ah, des fois 4, comme j'ai dit tantôt, puis quand ça allait en prolongation, tu y allais jusqu'à la fin. Là. Tu pouvais aller à 4-5 manches, puis 6 manches, puis tant qu'il y en avait. Même à Atlanta, à un moment donné, en 69, là, j'ai lancé un match contre Cincinnati. C'est Jim Britton qui avait commencé le match, puis il avait accordé, je pense, ses 3 points à première manche, puis les buts étaient encore remplis, puis je pense qu'il y avait juste un retrait, puis ils m'ont emmené dans le match, puis j'ai fini le match, j'ai lancé le reste des manches, là, les 8 manches et 2 sièges, je les ai lancés, puis finalement, c'est moi qui ai gagné le match. Ouais. J'ai eu raison de la grosse machine rouge.
Effectivement.
Big Red Machine.
On fait une pause et on va revenir dans quelques instants. On va vous parler de votre carrière dans les médias.
La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170.
En ces moments de réjouissance et de bonheur, toute l'équipe de Jean Dumas Ford souhaite de joyeuses fêtes à sa distinguée clientèle et la remercie de la confiance témoignée durant l'année qui s'achève. Profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. Numéro 418-276-1316.
Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuet Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuet Fortin au numéro de téléphone 276-86-11.
Laval et tout le personnel du restaurant Oma Chinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Oma Chinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339.
Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment unique pour passer du temps avec nos proches. Profitez-en pour vous ressourcer et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux pour vos achats. Joyeuses fêtes et bonne année 2022.
On est de retour avec Claude Raymond. Claude, si on parlait un peu de la carrière des médias, ça a commencé avec Jacques Doucet à la radio. J'ai fait une entrevue avec Jacques et il m'a dit évidemment que c'était, on cherchait un analyste et on vous a appelé.
Ben, ça a commencé bien avant Jacques Doucet, là, parce quand je jouais pour Houston, c'est Ronald Coré qui était réalisateur. Il était réalisateur à Radio-Canada.
OK.
Puis il m'avait appelé, puis il m'avait demandé, il dit « Hey, veux-tu faire la série mondiale? »
Ça
c'est en 65.
OK, monsieur, OK, ouais.
Puis j'ai fait la série mondiale avec, à ma droite, c'est René Lecavalier, puis à ma gauche, c'est Jean-Maurice Bailly.
Okay.
Fait que j'ai fait les séries mondiales pendant toutes ces années-là que j'étais joueur, là.
Ouais.
Quand arrivait le mois de septembre, là, on m'appelait, puis là, je faisais les séries mondiales, puis alors j'avais déjà pas mal de bagages avant que Jacques Doucet me convainque d'aller travailler avec lui à CKAC.
OK. Et ça a été trois ans, Claude, avec Jacques?
J'ai fait 12 ans avec Jacques.
Et monsieur, ça a été assez...
12 ans, puis ensuite j'ai fait 18 ans à Radio-Canada, à télévision.
Oui, et un peu à RDS aussi.
Oui, ben...
Un mois, deux mois?
Oui, mais RDS en 89.
À l'ouverture, oui.
Le 1er septembre 89, le RDS venait au monde, là.
Mm.
Puis il y a eu les nouvelles sportives.
OK.
Mettons à 6 heures, quelque chose de même.
Ouais.
Puis nous autres, la première activité live, là, qui était à point, là. C'était nous autres, Denis Casavant puis moi qui l'avons fait. C'était les expos qui jouaient.
Mm.
Puis on a fait 9 matchs au mois de septembre.
Mm.
Puis ensuite, on a fait des séries, des Cubs contre les Giants. Puis ensuite, les Giants contre Oakland. Puis c'est là, en 89, c'est là qu'il y a eu le tremblement de terre.
Ouais. Ouais.
Pendant la série mondiale, ouais.
Vous étiez à la radio aussi, je me rappelle très bien. C'était avec Pierre Trudel. Je vous appelais dans les lignes ouvertes à l'époque, Claude. Vous faisiez des lignes ouvertes. Effectivement, avec Pierre Trudel, parlons sport à CJMS. Par la suite, qu'est-ce que vous aimez mieux, la radio ou la TV, pour analyser sur match?
Ben, c'est bien différent, hein, parce que...
Ouais.
La radio, il faut que tu remplisses.
Ouais.
Tandis qu'à la télévision, moi, je me souviens des conseils de Guy Ferron au tout début. Il a dit, Claude, t'es pas obligé d'utiliser des verbes de 10 lettres, là.
Mm.
Si tu utilises le verbe avoir puis le verbe être, tu vas t'en sortir bien plus facilement.
Ouais.
Tu vas faire moins de fautes. Puis il dit, à part de ça, il dit, oublie pas que l'écran de télévision, il est là. Ça parle par lui-même.
Mm.
Ce qu'il faut faire, c'est sortir ce qui est en arrière de l'écran, ce que les gens ne voient pas. Alors, tu sais, c'est... Parce que des fois, je n'entends des gens qui font de la télévision, on dirait qu'ils font de la radio. Mm. Parce qu'ils n'ont pas besoin de parler tout le temps.
Mm.
Guy Ferron, il dit, tu peux être 3, 4, 5, 6 secondes sans dire un mot, mais la télévision parle par elle-même.
Ouais.
Fait que... Mais tu sais, quand tu fais de la radio, moi, j'ai commencé avec Jacques Doucet, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire comme une reprise à la radio. Okay. Puis ça a été un gros hit, parce que les gens m'en parlaient souvent. Ils disaient, ben on l'a vu, ce jeu-là. On dit, non, vous l'avez pas vu, c'était pas à TV, c'était nous autres à la radio. Mm. Fait qu'on a commencé ça. Puis quand tu le fais à la télévision, ben là, la reprise, tu la vois, puis les gens disent, ben c'est bien trop vrai ce qu'il nous a dit là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, ça donnait un bon coup d'œil, puis ça démontrait que c'était vrai ce que je disais. Mais entre les deux, à la radio, tu peux te préparer pour tout le match au cas où il y a des temps morts, puis tout ça. À la télévision, tu peux pas faire ça. À la télévision, ça arrive. Tu sais, quand John McSherry, l'arbitre, est décédé, le match d'ouverture à Cincinnati.
Vous étiez là?
Ben, j'étais là avec Camille Dubé, puis on a passé 45 minutes à parler sans avoir d'image, puis sans savoir ce qui se passait. Parce que c'est sûr qu'ils ont fait un ou deux messages publicitaires là-dedans. Mais là, tu sais, il faut que tu remplisses parce que t'es à la télévision, tandis qu'à la radio, ben, tu peux parler de toutes sortes d'affaires, tandis que là, il fallait que tu parles de ça.
Le temps est long, hein? Le temps devait être long. 45 minutes, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas s'il est décédé, tu sais rien, ça devait être très long.
On savait rien. On voyait ce qui se passait sur le terrain. Ron McLean, le soigneur des Expos, il est allé aider John McSherry, puis ils l'ont transporté sur une civière, puis tout ça. On voyait tout ça, on pouvait décrire ça, mais après, là, c'est difficile, là.
Ouais.
Mais, en tout cas, moi, j'ai aimé les deux, là. Mais si j'avais à choisir entre les deux, je choisirais encore la télévision.
Okay. Et le plus long match de l'histoire des Expos contre les Dodgers, il était à Radio-Canada, le match. Il est même sur YouTube encore.
Oui.
Il est sur YouTube, là. Ça va être long, je pense. Je me rappelle, ça avait commencé à 19h pour finir vers, quoi, 1h30 du matin, je pense.
Ah oui, ça va durer 21 manches.
Ouais.
Ça va finir 1-0.
Ouais. Est-ce que ça,
ça n'a pas été long. Non, ça n'a pas été long. Moi, là, la longueur d'un match, moi, ça ne me dérange pas du tout.
Ouais.
Moi, c'est ce qui se passe sur le terrain. Quand il y a de l'action, là, dans ce match-là, il y en a eu beaucoup d'action.
Ouais. Ouais.
C'était un bon match de 1-0. Puis, je me souviens, c'est Denis Martinez qui a perdu le match sur un circuit de Rick Dempsey à 21e manche.
Ouais.
Puis le lanceur gagnant pour les Braves, pour les Dodgers, c'était John Wetland.
Puis
je me souviens, ça c'est le match où la Serda avait fait expulser Youpi du match parce qu'il courait sur l'abri avec sa robe de chambre, puis il faisait trop de bruit sur le dugout.
Ouais.
La Serda l'a fait sortir du stade.
Okay. Dernier point, M. Raymond, je me rappelle très bien, dans les années 90, les gens des lignes ouvertes appelaient, puis disaient, Claude Raymond, pourquoi il ne fait pas partie du stade des Expos, il fait pas partie du personnel, puis finalement, ben, probablement que vous n'attendiez même plus. Vous êtes nommé instructeur des releveurs des Expos. Est-ce que vous attendiez?
Je m'attendais pas à ça du tout. Surtout que, regarde, c'est Frank Robinson qui était qui avait été nommé gérant.
Ouais.
Puis Frank Robinson, puis moi, quand on jouait un contre l'autre, là, on s'aimait pas du tout. Là.
Puis celle-là, c'était pas le plus sympathique en passant comme personnel.
Oui, mais quand tu joues avec lui, là, ou tu es sur son bord, tu l'aimes en tabarnouche.
Ah oui, OK.
Mais quand tu joues contre lui, tu l'haïs.
Mais pour les journalistes, c'était spécial un peu, hein, aussi.
Pete Rose, tu pouvais pas avoir un gars plus détestable que ça quand tu joues contre lui. Mais quand tu le rencontres, c'est tout totalement différent. Bob Gibson, il te regardait même pas, il te parlait à personne, lui. Mais quand tu le rencontres à l'extérieur, après sa carrière, il est gentil, tout ça, tu sais. Mm. Mais ça change. Mais moi, surtout avec Frank Robinson, que j'allais dire comme gérant, jamais j'ai pensé que... Puis finalement, j'ai eu l'appel de Minaya.
Omar Minaya,
Il m'a demandé si j'étais intéressé à devenir instructeur. Ils appelaient ça des « eye in the sky ». Ça, c'est comme... c'est moi qui étais en charge de la défensive des expos. Puis j'ai accepté. Ben, j'ai pas accepté tout de suite parce que j'ai demandé à mon épouse pour voir qu'est-ce que, qu'elle pensait. Ben, elle a dit, ben, t'as de l'air à vouloir y aller. Ben, elle a dit, ça te tente, vas-y. Fait que le lendemain matin, j'étais sur l'avion. Puis parce que le camp d'entraînement commençait le samedi, puis ça, c'était le vendredi. Fait que j'étais là pour le début du camp d'entraînement.
Les conditions étaient combien? Étaient comment dans les circonstances? Est-ce qu'il était quand même... Parce que les expos, c'était pas évident, là. T'sais, on jouait dans des conditions très moyennes.
Ah, c'était
là.
Difficile.
Très difficile. Donc, difficile, comme c'était l'ambiance?
C'était difficile, mais les joueurs sautaient sur le terrain, puis les joueurs se débattaient comme s'il y avait... comme si c'était pour continuer tout le temps, là. Nous autres... Tu sais, j'ai appris beaucoup pendant ces années-là comme instructeur parce que, tu sais, quand t'es joueur, tu sais ce qui se passe dans le vestiaire, tu sais ce qui se passe sur le terrain. Quand tu fais de la radio ou de la télévision, ça dépend, la télévision, ça dépend, mais la radio, t'es impliqué avec l'équipe. Fait que là, nous autres, John McHill, il y avait des réunions à tous les mois avec ses commentateurs à la radio. Puis à la télévision, parce que les expos avaient le contrôle des deux. Fait que là, tu savais ce qui se passait un petit peu. Mais quand tu es rendu dans le vestiaire, chaque décision que tu prends, ça peut finir la carrière d'un joueur ou ça peut le faire partir vers le haut. Alors, toutes tes décisions sont très importantes quand tu es instructeur. Puis c'est nous qui décidons, c'est pas juste le gérant. On est 6-7 instructeurs. Puis... admettons qu'il demande qu'est-ce qu'on fait avec, Vladimir Guerrero. Mais là, tout le monde donne son opinion. Puis là, le gérant décide, c'est lui qui décide, ou le gérant général par la suite. Parce que quand on fait des meetings avec le gérant général, là, c'est différent. Mais quand on est là, le Frank Robinson, puis les 6 autres instructeurs, ben là, les décisions, ça reste là. Mais quand le directeur gérant, quand Omar Minaya faisait partie, ben là, c'est Minaya qui avait le dernier mot dans ce temps-là, mais c'est important, là, parce que j'ai appris beaucoup, puis j'ai appris, tu sais, après ça, tu te demandes, c'est pour ça que telle ou telle chose est arrivée à tel temps, puis c'est vraiment, vraiment impressionnant d'être instructeur là, dans le baseball majeur.
Est-ce que vous l'auriez suivi à Washington si on vous l'aurait fait là?
Ben oui. Je voulais y aller moi aussi. Puis Frank Robinson m'avait dit tu vas venir avec nous autres. Puis j'ai dit oui, je vais y aller. Puis c'est là que le directeur gérant, comment il s'appelait, là, le président, je veux dire.
Ouais, OK.
Il avait été au hockey, lui.
Oui, l'ancien des Ducks, là, dans l'Inde.
Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je le trouvais hypocrite, là, mais c'est vrai qu'il était hypocrite. Ouais. Puis lui, quand Frank Robinson m'avait dit ça, « Hey, dis donc, inquiète-toi pas, tu vas venir avec nous autres. » Puis au mois de décembre, on faisait toujours un party des employés, là, puis il était passé aux côtés de moi sans même me regarder, fait. Puis le lendemain, il avait demandé à un de ses...
Tony Tavares.
Oui, c'est ça. Ouais,
Tony Tavares, effectivement.
Puis là, il avait demandé à un de ses employés de m'appeler pour me dire que je ne pouvais pas aller à Washington parce qu'il n'y avait pas assez de visa. Parce que moi, j'y allais en Floride, puis je... avant que le camp d'entraînement commence, je savais que Frank était pour être là. Fait que j'ai été voir Frank dans le vestiaire puis les autres instructeurs. Puis là, le Frank, il m'a dit, j'aimerais ça que tu viennes avec nous autres pour le camp d'entraînement puis tout ça. Il dit, je vais te faire un uniforme, puis il dit, tu viendras avec nous autres. Il dit, il y a juste une chose, tu peux pas être assuré pour, tu sais, au cas où il y a une blessure. J'ai dit, avec Taveras, là, ça serait pas bien une bonne affaire. Puis là, j'ai dit, je vais y penser, puis là, j'y ai pensé, puis je suis jamais retourné comme instructeur.
Ouais, effectivement.
Claude, mais je serais allé, par exemple.
Oh, Ben là, on pourrait continuer longtemps. Merci beaucoup. Je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne santé, encore une fois. Votre biographie sort à l'automne 2022. Moi, je pensais que ça allait être cet automne. Et finalement,
Avec la pandémie, on a décidé que ça allait être pour mettre ça plus tard.
Okay.
Donc, mais regarde, là, espérons que cette bébite-là va mourir, là, puis qu'on va pouvoir se serrer à la pince, puis donner la collade, puis pour tout le monde dans votre coin aussi, là, j'espère que tout va aller bien, puis je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde. Pas de pandémie, s'il vous plaît.
Claude, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Très intéressant pour le plaisir de se reparler quand l'actualité du baseball. Habituellement, je vous appelais quand il y avait un décès, mais là, c'est intéressant quand même. Fait que merci beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes.
OK, merci.
Claude Raymond, l'ancien lanceur des Expos de Montréal et du baseball majeur.